terror states.
Et non, nous ne sommes toujours pas des terroristes. Divergence numérique 179e édition sur les ondes de Divergence, Radio Larzac et Radio Escapade. Un numéro un peu spécial pour célébrer les 30 ans du projet GNU. GNU's Not Unix, le système d'exploitation développé par Richard Stallman il y a 30 ans. Le 27 septembre 1983, Richard Stallman diffusait l'annonce initiale du projet GNU, projet fondateur du mouvement du logiciel libre. Pour célébrer les 30 ans de l'annonce initiale, des événements ont été organisés à l'initiative de la Fondation pour le logiciel libre, la Free Software Foundation, plus communément connue sous le nom de FSF. L'événement principal a eu lieu à Cambridge, au MIT, les 28 et 29 septembre 2013. En présence de Richard Stallman, mais quelques jours avant l'événement à Boston, Richard Stallman était présent en France et à l'initiative de l'April, il donnait une conférence à Paris 8 le 21 septembre, un événement donc pour célébrer ce 30e anniversaire. Mais comme chaque semaine, nous démarrons par la revue de presse de l'April pour la semaine 39.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 39, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Eh bien, qu'avons-nous au sommaire cette semaine?
Alors c'est une grosse semaine avec beaucoup d'actualités sur plein de sujets, donc ça part dans tous les sens. On va vous parler de Prism et des 30 ans de GNU, les perspectives de l'open source dans l'année qui vient, le numérique et l'école, les patentes trolls, la culture non marchande et Framasoft, la loi du code, donc ça c'est un petit truc québécois, on les aime beaucoup en ce moment et il y a de quoi, porte ouverte de la région Île-de-France, et pour finir, le CSA qu'on va adorer détester, j'en suis sûr.
L'humanité.fr, à l'heure de Prism, les logiciels libres sont les plus sûrs. Un article de Pierrick Marissal. Donc l'humanité, c'est rare d'avoir l'humanité dans la revue de presse.
Bah, je crois que c'est la deuxième fois en un mois, qui est pas si mal.
Donc là, c'est une interview de Lionel Allorge. Donc, et le...
On le connaît celui-là, c'est qui?
Oui, on le connaît un peu, ouais, c'est un peu...
Bon, enfin, la photo est un peu vieillotte,
un
peut-être
peu vieille.
C'est celle qui est sur le site, c'est notre président. Donc voilà, une interview qui est pas mal du tout, qui est assez longue, de Lionel, qui parle de logiciels libres, de la situation actuelle avec les smartphones, les tablettes, donc c'est un panorama assez complet et voilà, très didactique. Lionel est en général très clair dans ses propos.
Je remarquerai aussi donc qu'il a parlé des 30 ans de GNU et il a réexpliqué un petit peu de quoi il s'agissait, la culture, l'histoire de cette chose là. Je note aussi qu'il y a d'autres articles qui parlent de tout ça, dont une interview de Stallman sur PC Impact. Je le dis parce que c'était compliqué d'en mettre un plus en avant que l'autre, et puis Lionel effectivement est très didactique, donc c'était quand même sympa de vous le montrer. Donc je vous recommande, et puis en plus l'humanité, ça sort un peu du lot. Donc je vous recommande, allez jeter un œil, c'est vrai que c'est pas mal.
01Net Pro, les perspectives de l'open source pour 2014, un article de Stéphane Fermigé, qui est une tribune plus qu'un article.
Hein. Et on parle pépette, hein.
Bah comme toujours, et puis bah toujours l'open source et le libre en tête, donc là encore il y a des grands chiffres de partout avec des pourcentages affolants sur tout ce qui est le logiciel libre, puis voilà, bah toujours la problématique des DSI aussi aujourd'hui, donc les directions informatiques qui ont des choix à faire et que les logiciels libres mettent en cause pas mal les modèles existants.
Voilà, donc c'est une tribune de Stéphane Fermigé qui est un patron d'entreprise qui fait du libre, hein, donc c'est pour ça que c'est une tribune plus qu'un article.
Dans le cadre de l'Open World Forum.
Forum qui se déroule ce week-end, donc voilà le week-end qui vient pour nous, 5 et 6 octobre. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des thèmes qui ont déjà été évoqués dans ce genre de tribune et qui disent notamment, ok, il y a du logiciel libre dans beaucoup d'entreprises, c'est pris à droite à gauche, mais ça manque d'une vraie politique et ça marche bien quand il y a une vraie politique de développement, etc. Et donc on imagine qu'une entreprise qui fait ça va pouvoir effectivement les intégrer plus facilement, mais en acheter plus aussi, donc c'est nécessairement intéressé, mais très bien. Et il y a également la mention d'une notion, mon Manu, toi tu m'as parlé déjà plusieurs fois, qui est...
Le DevOps, hein, développement et opérationnel.
Oui, je crois qu'on en avait parlé rapidement la semaine dernière, donc on va pas se rétendre dessus, puis c'est un petit peu technique. Pour notre propos. PC Impact, comment le numérique pour éviter le bonnet d'âne à l'école, un article de Xavier Berne. Donc, éducation, c'est un des sujets prioritaires. Et là, on parle d'informatique et de numérique à l'école. C'est le résultat d'un rapport qui a été rendu par des services de l'État sur comment améliorer tout ça. C'est un constat plutôt d'échec jusqu'à maintenant en disant que la politique ne s'est pas révélée très très efficace. Bon, et ça ne parle pas des masses de libre quand même.
Non, ça va parler de TVA et de mutualisation des achats, donc du haut vers le bas, on va décider des grands axes et on les pousse. Ça parle aussi du fait que voilà, le B2I, le C2I sont des choses qu'on n'aime pas trop à l'April, bah, ça n'a pas l'air de très bien fonctionner.
Ouais, et puis bah aussi, en plus en citant Stallman, qui prend l'exemple qu'aujourd'hui les écoles, c'est le premier shoot, il compare ça à des dealers, en fait l'école offre le premier shoot au logiciel privateur aux différents étudiants et élèves qui sont dans l'éducation, et que bah ils préféraient largement avoir du logiciel libre et que bah tout le monde ait accès à tout ça, et pas à vendre déjà, à les doper et à les rendre dépendants du privateur dès la petite enfance.
Alors dans le rapport, il y a quand même un peu de positif, hein. Il y a notamment un plaidoyer en faveur de l'interopérabilité, et qui dit que ça a toute une série d'avantages. Évidemment, l'interopérabilité et le logiciel libre, c'est parfaitement lié. La logique commerciale du logiciel, pour le coup privateur, le terme est très très bien choisi, c'est justement d'essayer d'enfermer les utilisateurs dans un format pour être sûr qu'ils soient captifs par la suite.
Il parle aussi de contenu libre, hein, et de mettre en place un portail où on pourrait retrouver des ressources qui seraient sous Creative Commons par exemple, donc des choses sur lesquelles les professeurs peuvent construire, s'entraider les uns les autres, ça peut être intéressant, et en plus ça coûterait peut-être moins cher que les manuels scolaires classiques, papier, lourd, on peut rêver.
Lemonde.fr, des entreprises s'alarment de l'arrivée des patent trolls en Europe, un article de la rédaction.
Alors les patent trolls,
Les patent trolls, donc c'est les trolls des brevets. Donc en gros, c'est des entreprises qui ne vivent que par des attaques et des procès envers des entreprises qui violeraient des pseudo-brevets.
Oui, souvent des brevets sur des choses idiotes.
Voilà, sur des choses comme tout et n'importe quoi. Et là, en fait, avec le problème du brevet unitaire, c'est qu'il y a deux décisions qui vont être prises et qui pourraient conduire à faciliter la vie des patent trolls.
Oui, parce que les patent trolls, jusqu'à maintenant, ont prospéré en Amérique du Nord. Là où
largement, il est question de milliards qui seraient perdus à cause d'eux.
Voilà, là où les brevets logiciels sont reconnus. Et donc, c'est des boîtes avec des juristes. Ils achètent des brevets, ils en déposent. C'est pas grave s'ils sont complètement stupides. Le principe, c'est si on a une PME en face, c'est de lui tomber dessus et de lui faire des menaces. Hein. C'est du racket. On dit, on va te faire un procès. Donc même si tu le gagnes, t'es parti pour 2 ans de procédure, est-ce que t'auras les reins assez solides pour tenir tout ça? Et contre une somme beaucoup moins chère, ces entreprises sont tentées de se débarrasser du problème en lâchant quelques dizaines de milliers de dollars, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que les boîtes qui poussent cette alerte contre les patent trolls, c'est leur arrivée en Europe.
Oui, ce ne sont pas des petites boîtes.
Ce n'est pas des petites boîtes et ce n'est même pas des boîtes européennes.
Et non, dans le lot, on peut peut-être citer donc, Intel, BlackBerry,
Apple, Samsung, même Cisco, des boîtes françaises, Cisco,
Google, voilà.
Microsoft, HP, Yahoo. Donc en gros, tous les gros ténors américains et pas que américains qui en gros ont ramé, se sont pris des grosses claques, etc. sur le marché américain,
oui,
arrivent en Europe et disent hop, attention à ce que vous faites, on va se retrouver avec les mêmes ennuis qu'on a en Amérique du Nord, s'il vous plaît évitez ça. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que ces boîtes qui investissent des milliards, et vraiment des milliards hein, dans les brevets, viennent prévenir que finalement ça marche pas.
Oui, je rappellerai, même Obama, il semblerait, a fait des sorties là-dessus parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte.
Contre les trolls, oui.
Voilà,
contre
c'est ça, trolls, ça leur coûte trop cher, c'est question de dizaines de milliards.
Ça coûte très très cher, et puis en fait, on arrive à des situations qui sont complètement apocalyptiques, enfin n'importe quoi. Là, par exemple, en Europe, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait porter plainte en fait contre une entreprise pour violation de brevet, alors même que le brevet en question est remis en cause par une autre entité. On pourrait avoir quelqu'un qui se retrouve condamné. Et ensuite, le brevet qui soit cassé. Donc, ça serait vraiment n'importe quoi.
Voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle que d'aussi grosses entreprises apportent de l'eau à notre moulin. On espère qu'elles seront entendues. Alors, c'est des boîtes américaines et actuellement, les boîtes étrangères de l'Internet, tout ça, elles sont assez mal vues parce que le gouvernement réfléchit à comment leur mettre le grappin sur, fiscalement sur leur argent. Mais bon, voilà, leur propos est tout à fait pertinent. Basta, l'univers de la culture libre et non marchande à sa galaxie Framasoft. Un article d'Agnès Rousseau.
C'est plutôt intéressant, un article sur un site un petit peu contre-culture, et où on présente Framasoft et tout ce qui tourne autour, tous les services. Donc Framasoft sont des grands amis, c'est une association partenaire.
Ouais, c'est vraiment des grands amis, donc a été créé par Aka. Et,
Aka, c'est un surnom. Hein.
Ah oui, c'est un surnom, et c'est Alexis Kaufman, qui, en fait, c'est plus une galaxie aujourd'hui, maintenant, Framasoft. Avant, c'était au départ, c'était juste un annuaire de logiciels libres. Aujourd'hui, c'est devenu...
Au début, c'était même un annuaire de logiciels gratuits, dont plein de logiciels propriétaires. Voilà. Et Alexis Kaufman a découvert le libre à cette occasion-là, puisqu'initialement, il voulait faire un truc, puisqu'il est prof. Il voulait faire quelque chose pour ses collègues et il a découvert le truc et a tourné tout libre par la suite.
Et aujourd'hui, il y a plein de projets qui gravitent autour de ça. On a toujours l'annuaire du logiciel libre. On a plein d'outils libres aussi mis à disposition. Et ça fait des blogs, des informations, une galaxie quoi, autour du libre.
Des activités d'édition, des services en ligne. Il y a vraiment des tonnes de choses.
Ils font même des livres, effectivement. Ouais. Les Framabooks. Hein.
Des traductions. Allez voir. D'ailleurs, on parle souvent de leurs articles traduits sur la Framalangue. Donc, allez voir l'article. Il est pas mal du tout. Il fait le tour d'horizon de ce que fait Framasoft. Et ça vous permettra de découvrir cette super association. la presse, la loi du code, un article de Pierre Asselin.
Alors ça, c'est une grande bonne nouvelle au Québec.
Voilà, ben, au Québec, donc ça fait suite à ce qu'on avait déjà parlé la semaine dernière. Donc là, il y a eu une loi qui a été, qui est en passe d'être votée pour faciliter le logiciel libre. Il y a une vraie volonté de faciliter l'usage et de mettre en avant l'usage du logiciel libre dans l'administration. Donc c'est vraiment un gros point positif. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont pas préoccupés des sujets qui sont... Enfin, qui peuvent être considérés comme très importants par l'actualité. Et parmi ces gros sujets, bah, ils ont pris le temps d'aller voter une loi sur le logiciel libre.
Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une motion donc, qui a été votée de façon unanime, donc c'est assez incroyable. Et ce qui est assez étonnant, puisqu'on avait ce bilan sur ce qui s'était passé au Québec, où il y avait eu une campagne très très forte pour que le libre puisse rentrer dans l'administration du gouvernement québécois, à l'occasion du renouvellement d'XP qui arrivait en fin de vie, ça avait été fortement déçu.
Oui, et en plus de ça, il y avait des problèmes de marché public, parce que normalement, un marché public, ça devrait être neutre envers les marques, ça ne devrait pas imposer un logiciel propriétaire, hein, parce qu'après tout, c'est en soi-même, c'est monopolistique et c'est limité. Donc ça avait été cassé, ça avait été remis en place, et là, de voir un truc fait à l'unanimité de cette manière-là, je pense que c'est les gouvernements qui, à chaque fois, font un peu la tête, et qui, là, vont peut-être trouver un moyen de retirer la motion, implémenter un petit détail.
Le marché est passé, donc... sur cette grosse partie, c'est raté, mais on espère que pour les années à venir, le libre va s'implanter sérieusement au Québec. Voilà, en tout cas, c'est une excellente nouvelle.
Moi, ça me fait penser à ce qui se passe au Sénat et au Parlement français. Hein. On a passé ces derniers temps des motions, des choses vraiment intéressantes qu'on appréciait, et le gouvernement revenait derrière et paf, les virait. Ce qui est rageant, ce qui est vraiment rageant.
Ça prouve que les choses avancent. Il y a encore quelques années, on disait logiciel libre, personne ne savait ce que c'était, y compris chez les politiciens. Et voilà, et ça montre aussi que notre travail n'est pas inutile et ça fait chaud au cœur, même si on n'est pas tout seul sur le coup. Région Île-de-France, portes ouvertes pour le logiciel libre, un article de Xavier Frison. Bon, c'est un article en gros qui annonce l'Open World Forum, encore lui.
Et oui, hein, c'est un gros truc.
Donc article fait par la Région Île-de-France hein, sur son site.
C'est surtout ça qui était intéressant.
Voilà. Et bon, ils se font pas mal mousser hein, dans l'article. Ils prennent le soin d'expliquer que ça se passe chez eux, que... voilà, qu'ils ont donné les moyens pour ça. Donc la Région Île-de-France veut que ça se sache. Ils y sont pour beaucoup dans l'Open World Forum.
Ah oui, non mais attends, c'est normal quoi. Les autorités locales ont construit le logiciel libre, elles contribuent. Et puis là, il y a un minimum quoi. C'est quoi, ils doivent offrir les locaux, j'imagine, au minimum.
Ouais.
En fait, on n'en sait rien du tout. Non, comme il rappelle qu'il y a des grands projets comme VLC qui ont été faits par des étudiants franciliens, donc voilà, ça c'est super important, etc. Il rappelle qu'il y a un pôle de compétitivité logiciel libre en Île-de-France. Bon, ils oublient de mentionner qu'ils ont fait un accord de recherche avec Microsoft juste derrière,
oups,
avec qui représente beaucoup plus d'argent. Mais bon, voilà, non, c'est bien, ça avance. Et si la Région Île-de-France se vante parce qu'il se passe des trucs logiciel libre chez elle, tant mieux.
Non, puis ça fait du bien de voir bah, justement des sites grand public à publier des informations comme ça et que ça reste pas cantonné à des sites informatiques ou très geek en général.
PC Impact, comment le CSA compte réguler tous les contenus culturels numériques ? Un article de Marc Ress.
Alors là, on peut faire la tête parce que le CSA, rappelons-le, c'est eux qui gèrent d'habitude les choses comme la télévision. Et là, leur demander, parce que c'est la direction que ça prend de gérer le net, eh bien, on est un peu dégoûté.
Bah en fait, le CSA, c'est l'entité qui va récupérer en fait, déjà tout ce que fait l'Adopi aujourd'hui. Donc, bah, on était déjà contre l'Adopi.
On pense, hein, parce que oui.
C'est un peu l'idée, mais on l'avait vu venir. Hein, on l'avait dit ces dernières semaines hein, avec les annonces de mort de l'Adopi. On fait youpi, mais bon, en même temps, on sait que le CSA va reprendre sensiblement les mêmes missions.
Ouais, donc, arrive de Silla, tout voilà, ça.
Et donc, ils reparlent bah, de reprendre la riposte graduée, d'autres choses, et puis des choses assez rigolotes, comme ils veulent contrôler Internet. Donc, je sais pas trop comment ils comptent s'y prendre, parce que bon, Internet, il faudra leur dire qu'un jour, c'est mondial quand même. Hein, ça serait limite pas la France. Mais voilà, ils veulent demander à des moteurs de recherche de mettre des petites pastilles
rouges
et vertes.
Oui, on retrouve des idées qui avaient été sorties dans des projets de loi il y a plusieurs années maintenant et qui étaient l'idée de labelliser les bons sites pour que l'internaute stupide puisse faire la différence entre le bon site et le mauvais site et pousser le vice jusqu'à ce que cette labellisation apparaisse dans les moteurs de recherche. Ils ont même fait un petit montage. Donc derrière, quand on pense à la neutralité du net, dès lors qu'on va commencer à estampiller les bons sites, on imagine tous les développements qu'il peut y avoir derrière. Ça sent vraiment pas bon. Et évidemment, derrière, ça va être des sites avec des DRM dans tous les coins et des trucs comme
ouais,
ça.
Et puis il parle par exemple de financer fin, via des réductions d'impôts ou d'autres choses de certains sites qui seraient compatibles avec leurs idées. Il va falloir définir quand même qu'est-ce que c'est leurs idées et pourquoi ils vont privilégier tel ou tel site par rapport à d'autres. Enfin ça sent ouais, au niveau neutralité du net ou même d'aller modifier les moteurs de recherche. J'imagine mal Google aller mettre des pastilles juste pour la France. Enfin on marche vraiment sur la tête à tout niveau. Ils n'ont pas du tout compris ce que c'était Internet, que c'était pas du tout la télé. Et avec des idées bah, qui sont proches de la censure ou en tout cas du contrôle étatique. Et bah, ce
partir du moment où certains acteurs sont reconnus par l'État et bénéficient d'avantages fiscaux, donc de financiers, ça s'appelle de la subvention, et ça veut dire que l'État décide de qui peut s'exprimer et qui va avoir plus de mal à le faire. Donc c'est assez pénible. Donc il y a des réactions assez radicales face à cette proposition. Alors par exemple, l'ASIC s'est exprimé au travers de son secrétaire général, qui est Giuseppe De Martino, et qui dit « Le CSA, de peur d'être un jour démantelé, continue à rêver au jour fou où il pourrait avoir vocation à regarder ce qui se passe sur Internet, ce qui serait une vraie découverte pour ses membres. » Donc voilà, donc là-dedans, on a en gros les acteurs du web 2.0, ce qui veut pas dire grand-chose, mais on a notamment Dailymotion et des choses comme ça. Et on a également Philippe Aigrin.
Donc de la Quadrature, hein, oui. En partie.
Voilà, et qui est une des personnes qui réfléchit à tout ça depuis longtemps et qui a écrit des bouquins très intéressants là-dessus, vraiment documentés. Donc s'il y a une personne qui a vraiment réfléchi en profondeur là-dessus, c'est lui.
Donc la citation, une citation de Philippe Aigrin, donc « Télévisionniser l'Internet, espace de l'abondance, des sources de contenu, des interactions, en le plaçant sous la tutelle d'une autorité administrative, dont la nature est précisément de gérer l'allocation de la rareté, constitue une violation symbolique majeure. »
Une violence symbolique majeure.
Une violence symbolique majeure.
Très bien, bah on a fait le tour.
Et oui, donc on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.
Et bonne semaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et on les remercie chaudement pour cette revue de presse, émission spéciale donc, conférence de Richard Magic Stallman, donnée le 21 septembre 2013 à Paris 8, dans le cadre des 30 ans du projet GNU. Effectivement, c'était le 27 septembre 1983 que Richard Stallman diffusait l'annonce de son projet, un projet fondateur du mouvement du logiciel libre. Une conférence donnée donc ce 21 septembre, une conférence de 2h10 dans laquelle cette semaine et la semaine prochaine, nous allons nous efforcer d'en tirer la substantifique moelle. Aujourd'hui, eh bien, on démarre par le début de cette conférence, une introduction et en quelque sorte les conditions générales d'utilisation de cette conférence, les menaces qui pèsent sur la société numérique, surveillance, censure, format, programme privateur, porte dérobée et vis caché du Kindle Swindle. Puis nous verrons la semaine prochaine un retour sur l'histoire du projet GNU et de l'importance de bien dire GNU et Linux et non pas Linux tout court. La distinction aussi avec l'open source, les propositions de Richard Stallman en matière d'éducation, entre autres thèmes de cette conférence qui va nous occuper pour cette semaine et la semaine prochaine. Une conférence organisée par l'April sous licence Creative Commons by ND Unported, licence qui fait partie des conditions générales d'utilisation de cette conférence.
J'ai deux choses à vous prier. Ne mettez pas de photos de moi dans Facebook ni dans Instagram. Ce sont des moteurs de la surveillance aux gens. Et si vous mettez la photo de quelqu'un dans Facebook, vous lui donnez une manière de, en plus de le surveiller, ce qui n'est pas bon. Donc, ne mettez pas les photos de moi. Aussi, si tu veux enregistrer cette conférence et diffuser des copies, prêt de le faire uniquement dans les formats et des manières favorables au logiciel libre, c'est-à-dire dans les formats OGG ou WebM. Jamais dans les formats MP, quoi que ce soit, jamais en Flash et jamais en Windows Media Player ni QuickTime. Donc, pas dans YouTube. Mais aussi, il faut assurer que l'exécution d'un programme privateur en JavaScript n'est pas nécessaire pour l'accès au fichier, pour décharger le fichier. Donc, pas dans YouTube. Et prêt de mettre sur le fichier la licence Creative Commons non dérivée, parce que c'est une présentation d'un point de vue.
Divergence numérique, 179e émission sur les ondes de Radio Escapade, Divergence FM, Radio Larzac. Spéciale conférence donnée le 21 septembre à Paris 8 par Richard Stallman, l'inventeur du logiciel libre. Une conférence au cours de laquelle il détaille les menaces qui pèsent sur la société numérique, à commencer par la surveillance.
Il y a beaucoup de projets visés sur l'inclusion numérique pour promouvoir la participation de tout le monde dans la société numérique. Mais est-ce que ce but est bon ou mauvais? Ça dépend de si la société numérique est juste ou injuste. Si la société numérique est injuste, il faut chercher à lutter pour notre extraction numérique et pas pour l'inclusion numérique, pas pour l'inclusion dans l'injustice. Donc, quelles sont les menaces à la liberté dans la société numérique actuelle et qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger les libertés? Dans cette conférence, je traiterai plusieurs menaces distinctes, mais avec des relations entre elles. D'abord, la surveillance. L'Internet est devenu un système de la surveillance massive à tout le monde, ce qui est une injustice énorme. La majorité de l'utilisation de l'Internet fait de la surveillance des entreprises. Je refuse d'utiliser les sites qui font cette surveillance. Il faut refuser. Souvent, ils surveillent les utilisateurs à travers de leurs produits, de leurs ordinateurs, c'est-à-dire quand les ordinateurs tournent des programmes privateurs, c'est-à-dire pas libres, souvent les programmes surveillent leurs utilisateurs. Ils transmettent des données personnelles sur l'utilisation de la machine à quelques serveurs. Beaucoup de programmes privateurs le font parce qu'ils sont sous le contrôle, pas de leurs utilisateurs, mais plutôt des propriétaires. Et les propriétaires veulent surveiller les gens. Et c'est le propriétaire qui décide avec un programme privateur. Donc, une manière d'éviter cette forme de la surveillance est de refuser privateur, et c'est ce que je fais. C'est ce qu'il faut faire pour être libre dans l'informatique. Il faut noter que la surveillance vraiment dangereuse est celle de l'État. Mais quand une entreprise accumule des données personnelles, c'est vraiment une rame de la surveillance de l'État. Parce que toutes les données de l'entreprise sont disponibles facilement à l'État. Donc, une fois les données soient accumulées quelque part, c'est déjà dangereux. Nous pouvons nous protéger contre la surveillance à travers de nos logiciels, mais il y a aussi la surveillance qui se fait par des systèmes qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, les fournisseurs d'accès Internet font de la surveillance. Ils font des dossiers de tous les contacts Internet de chaque client. Et les entreprises de la téléphonie font de la surveillance. Ils prennent note de tous les appels. Et aussi, quand il s'agit d'un téléphone portable, de la position géographique du téléphone. Et ils font cette surveillance à travers, normalement, du logiciel privateur dans le téléphone, parce que ce logiciel privateur transmet la position GPS sur commande à distance, que l'utilisateur le veuille ou pas. Il n'y a pas manière d'ordonner que le téléphone ne transmette pas. Mais, même si le téléphone n'a pas de GPS, même si tu trouves du logiciel libre pour faire ce travail dans le téléphone, ils savent localiser le téléphone sans sa coopération. Parce que quand le téléphone transmet un signal, ce signal arrive à plusieurs tours. Et chaque tour prend note du moment, du temps exact de l'arrivée du signal. Et en comparant les temps, l'entreprise peut déterminer où se trouve ce téléphone à ce moment-là. Nous ne pouvons pas nous protéger contre la surveillance faite par des systèmes qui ne sont pas à nous, pas directement, uniquement par l'organisation politique. Il faut lutter pour diminuer la surveillance. Mais il y a aussi des systèmes spécifiquement pour la surveillance, faits pour la surveillance. Par exemple, en Angleterre, ils ont mis des caméras sur toutes les routes pour reconnaître les matriculés, pour suivre les mouvements de chaque voiture. L'État crée des dossiers sur chaque voiture et peut garder cette information pendant des décennies. Pourquoi pas, c'est facile. Aussi, il peut suivre n'importe quelle voiture en temps réel. Et ce système a déjà été utilisé plusieurs fois pour arrêter des dissidents supposés d'être en route à une manifestation. Évidemment, la surveillance est incompatible avec la démocratie. La surveillance était une des injustices de l'Union soviétique. Maintenant, nous sommes plus surveillés que les habitants de l'Union soviétique. Il faut réduire le niveau d'accumulation de données privées, de données personnelles, parce qu'une fois accumulées, les données seront abusées. Donc, je n'ai pas de téléphone portable. Voici le rêve de Staline. Quelque chose pour suivre et écouter tout le monde quand il veut.
Rêve de Staline ou de George Orwell, d'ailleurs on reviendra sur le cas 1984 avec le soi-disant Kindle d'Amazon. Suite de cette conférence de Richard Stallman enregistrée le 21 septembre à Paris 8 lors des 30 ans du projet GNU, avec une des autres menaces qui nous pèse dessus et qui n'a pas attendu l'avènement d'Internet pour se faire sentir, c'est bien évidemment de la censure dont il s'agit.
Il y a aussi la censure. La censure n'est pas nouvelle, mais il y a 15 ans, il paraissait que l'Internet vaincrait la surveillance, que censurer l'Internet serait trop difficile. Maintenant, nous savons qu'un État peut censurer l'Internet s'il veut payer le prix en argent et en haine du public. Mais ils ne sont pas uniquement les États évidemment tyranniques qui le font. Oui, bien sûr, la Chine censure l'Internet, l'Iran censure l'Internet, mais aussi la France censure l'Internet. Finlande censure l'Internet. Finlande a imposé des filtres sur l'accès Internet en 2007. Un Finlandais voulait informer le peuple au sujet de cette surveillance. Donc, il a fait des expériences. Il a essayé de contacter plusieurs sites pour savoir quels étaient les sites bloqués. Il a publié une liste et l'État a bloqué l'accès à son site. Bien que la loi ne le dit pas. Donc, il a lancé un procès, mais il y a quelques semaines, le tribunal suprême de Finlande a dicté que c'est légal de bloquer l'accès à son site, c'est-à-dire au site qui parle, au site journalistique qui présente les faits sur la censure que l'État fait. Il y a 4 ans, l'État turc a annoncé la politique que chaque internaute en Turquie devra choisir entre 4 niveaux possibles de censure. Mais l'accès au vrai Internet ne serait plus une option. Les défenseurs de la liberté se sont manifestés dans les rues, mais l'État continue dans le chemin. En Australie, il n'y a pas de filtre. Le gouvernement a proposé d'imposer des filtres, mais par l'opposition, le plan a été rejeté. Mais il y a une autre forme de censure en Australie, la censure des liens. Il y a des sites qui sont interdits pour faire des liens. L'organisation Electronic Frontier Australia, qui défend les libertés des internautes en Australie, a été sanctionnée d'une amende de $11,000 par jour s'il ne supprimait pas un lien à un site politique étranger, un lien qu'il a mis seulement pour essayer de défendre la liberté de faire des liens. Et c'est quoi ce site? Terroriste? Non. C'est presque aussi injuste. C'est un site contre le droit à l'avortement. Mais ils ont le droit de présenter leur point de vue, même en Australie. Dans beaucoup de pays, ils ferment des sites web, même sans procès souvent. Par exemple, en Inde, n'importe quel site qui offende la religion de quelqu'un peut être fermé pour ça, sans procès, je crois. On a très peu de droits dans l'Internet en Inde. Mais aussi en France, je crois, par la loi OPSI. Je crois que l'État peut fermer un site web sans procès. Qui sait, Frédéric, est-ce que tu le sais?
C'est un peu plus compliqué que ça, mais ça fait partie des risques possibles, oui.
Oui, merci. En Espagne aussi, aux États-Unis, ils ferment un site et le propriétaire doit faire un procès pour annuler la fermeture, peut-être un an plus tard. Donc, c'est évidemment injuste. Il faut lutter contre la censure. Et la liberté de la parole comprend jusqu'à la liberté d'insulter n'importe qui ou n'importe quel point de vue ou n'importe quelle activité, parce qu'il n'y a rien qui doit être au-dessus de toute critique, ni même le président de la République.
Le président de la République, dont le Premier ministre avait sorti une circulaire de son nom, la circulaire Héro, qui prenait le logiciel libre. On a vu ce que ça a donné sur la loi de modernisation de l'école. Mais passons, il y a quand même eu des victoires sur la loi de l'enseignement supérieur et de la recherche. La liste des menaces qui pèsent sur Internet et votre vie numérique ne s'arrête pas à la surveillance ou à la censure. Elle passe aussi inévitablement par les formats de fichiers que vous utilisez peut-être sans le savoir.
Une autre menace à la liberté dans la société numérique se trouve dans les formats de fichiers, de données qui restreignent les utilisateurs, souvent parce qu'ils sont secrets. Il y a des formats secrets qui sont secrets, sont gardés secrets pour restreindre les utilisateurs. Et ça s'appelle les logiciels menottes ou les menottes numériques, parce que ce sont des programmes qui agissent comme des menottes dans le monde physique. Il y a des applications, des programmes qui écrivent les données de l'utilisateur, que l'utilisateur entre dans le programme dans des formats secrets pour l'interdire d'utiliser les données dans d'autres programmes. Quand le propriétaire se trouve dans une position de dominance dans le marché, il pense, si je peux éliminer toute possibilité de concurrence avec moi, je serai dominant à jamais. Donc, il change le programme pour écrire les données dans un format secret. Et comme ça, n'importe quel concurrent n'a plus la possibilité d'offrir aux utilisateurs la possibilité d'utiliser leurs données dans l'autre programme. C'est nocif aussi au logiciel libre parce que nous sommes des concurrents pour n'importe quel programme privateur. Nous voulons le remplacer par un programme libre. Mais comment le faire si les données sont écrites dans un format secret. Il y a aussi d'autres formats secrets qui sont utilisés souvent pour distribuer des copies des œuvres de musique, de vidéos, des livres. Et c'est le même problème. Une œuvre distribuée dans un format secret ne peut pas être utilisée sauf par des programmes privateurs qui sont construits pour restreindre ce que l'utilisateur puisse faire. Donc c'est injuste. Évidemment, les programmes construits pour restreindre l'utilisateur sont privateurs. Si le programme est libre, le format n'est plus secret. Le code source du programme révèle le format. Et les utilisateurs peuvent le changer. Ils ne peuvent pas restreindre l'utilisateur. Si quelqu'un veut te restreindre, il peut te mettre des menottes, mais pas des menottes d'argile mou, tu peux le rompre. Donc il faut utiliser un matériel assez fort pour te restreindre. Si la forme des menottes est sous ton contrôle, tu peux t'échapper. Donc ils utilisent les programmes privateurs pour restreindre les gens. Il y a aussi les formats brevetés qui ne sont pas secrets. Par exemple, les formats MP, quoi que ce soit, ne sont pas secrets. Les standards sont publiés. Il y a des programmes libres capables de gérer ces formats, mais beaucoup de distributeurs du système GNU et Linux n'osent pas y mettre ces programmes libres parce qu'ils craignent d'avoir un procès sous le brevet. Ils le craignent rationnellement. Donc, ils ont deux options. Ou distribuer leur système sans programme capable de gérer ces formats. Et puis l'utilisateur dit, ce système est nul. J'ai des fichiers MP3, je veux les jouer et je ne peux pas. Parce que le système ne sait rien de ce format. Ou ils distribuent des programmes privateurs dont ils avaient payé l'utilisation. Et comme ça, l'utilisateur n'est plus libre. Donc, deux options mauvaises ou injustes. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est un problème parce qu'il y a beaucoup d'utilisation de ces formats. C'est pour ça que j'exige de ne pas distribuer mes conférences dans les formats MP, quoi que ce soit, les formats brevetés. Parce que la création de fichiers dans ces formats augmente le problème, augmente la pression de pouvoir gérer ces formats qui imposent le choix entre les mauvaises options. Tout le monde doit refuser de créer des fichiers dans les formats brevetés. Il y a aussi le cas unique de Flash. Flash n'est pas secret ni breveté. Donc, c'est quoi donc le problème ? Adobe change souvent ce format. Nous avons le support pour la version 8 de Flash, mais Adobe a fait la version 10 et c'est complètement différent. Il dit que c'est une autre version, mais ça veut dire qu'il a remplacé depuis zéro le format binaire. Donc, nous n'avons pas pu arriver à être au courant dans le support pour Flash. Donc il faut ne pas distribuer des fichiers en Flash. C'est une pratique qui provoque des problèmes.
Divergence numérique, 179e émission. Nous saluons les auditeurs de Radio Larzac et Radio Escapade qui nous écoutent. Sur Divergence FM, on poursuit avec indissociable des formats de fichiers, les programmes qui les écrivent. Des programmes dits privateurs en opposition aux logiciels libres.
Une autre menace à la liberté se trouve dans les programmes pas libres, les programmes privateurs. Ils s'appellent privateurs parce qu'ils privent leurs utilisateurs de leur liberté. Mais c'est quoi le logiciel libre? Je peux l'expliquer en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce qu'un programme libre respecte la liberté de ses utilisateurs. égalité parce que à travers un programme libre, personne n'a du pouvoir sur personne. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs du programme. Donc, il s'agit de liberté et pas de prix. Quand je dis en anglais « free software », je dois expliquer que « free » signifie « libre » et pas « gratuit ». Parce que le prix est un détail pratique. Ce n'est pas une question importante morale. Mais les droits de l'homme sont une question importante morale. La liberté est d'avoir le contrôle de ta propre vie. Et pour en avoir le contrôle, si tu utilises une œuvre pratique pour faire quelque chose dans ta vie, tu as besoin du contrôle de l'œuvre. Le logiciel est une œuvre pratique conçue pour s'utiliser, pas pour l'apprécier comme l'art. Donc, les utilisateurs doivent avoir le contrôle des programmes qu'ils utilisent. Mais pour avoir ce contrôle, il faut les quatre libertés essentielles. La liberté zéro est celle d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. La liberté numéro un est celle d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ton informatique comme tu veux. Avec ces deux libertés, chaque utilisateur a le contrôle individuel du programme. Mais le contrôle individuel ne suffit pas parce que la grande majorité des utilisateurs ne savent pas programmer. Ils ne savent pas exercer la liberté numéro un. Donc, il faut quelque chose de plus. Il faut le contrôle collectif du programme. Ce qui veut dire que n'importe quel groupe d'utilisateurs peuvent coopérer dans l'exercice du contrôle du programme. Le contrôle collectif requiert deux libertés en plus. La liberté numéro deux est celle de distribuer des copies exactes du programme aux autres quand tu veux. Et la liberté numéro trois est celle de distribuer des copies de tes versions modifiées aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, ceux qui participent dans le groupe peuvent collaborer. Donc, ces deux libertés permettent l'entraide entre les gens. Et aussi, les membres du groupe peuvent offrir des copies aux autres, au public. Donc, avec le contrôle individuel de chaque utilisateur à la fois et le contrôle collectif de n'importe quel groupe, grand ou petit, d'utilisateurs, les utilisateurs ont le contrôle du programme au niveau maximum possible. Et comme ça, c'est juste. Mais si les utilisateurs n'ont pas le contrôle du programme, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc ce programme est un instrument du pouvoir du propriétaire sur ses utilisateurs. Donc, n'importe quel programme pas libre génère un système de pouvoir injuste. La liberté est d'avoir le contrôle de ta propre vie. Le pouvoir est d'avoir le contrôle des vies des autres. Donc, le pouvoir et la liberté sont incompatibles. Mais un programme privateur est un instrument du pouvoir, un pouvoir que personne ne doit avoir. Donc, notre but est la libération de l'informatique et de tous les utilisateurs de l'informatique. Tout programme doit être libre pour que ses utilisateurs soient libres. Aujourd'hui, le propriétaire d'habitude est très conscient de son pouvoir sur les utilisateurs et cherche toujours des manières d'utiliser ce pouvoir pour gagner plus de pouvoir ou plus d'avantages sur les utilisateurs. Donc, il cherche des manières d'abuser ce pouvoir en introduisant des fonctionnalités malveillantes dans le programme. Sachant que les utilisateurs d'un programme privateur n'ayant pas le contrôle du programme ne peuvent pas supprimer la fonctionnalité malveillante, ne peuvent pas la corriger. Ils sont sans défense devant n'importe quelle fonctionnalité malveillante que le propriétaire veut introduire.
Et c'est bien vrai que nous sommes sans défense, comme le souligne Richard Stallman. On l'a vu cet été, sans défense face à la NSA et à Prism, sans défense face aux portes dérobées qui sont présentes dans vos logiciels privateurs, sans défense devant votre nouveau Kindle, le Swindle, que vous trouvez tellement cool et qui est tellement moins perfectionné qu'un bon vieux bouquin en papier.
J'ai déjà mentionné des fonctionnalités de surveillance qui se trouvent dans beaucoup de programmes privateurs. Il y a aussi les menottes numériques, d'autres types de fonctionnalités malveillantes dans beaucoup de programmes privateurs. Mais il y a un troisième, les portes dérobées. Ça veut dire que le programme reçoit des commandes de quelqu'un d'autre, usuellement depuis le propriétaire du programme, pour faire quelque chose à l'utilisateur sans lui demander l'autorisation, sans l'informer de ce qu'il a fait, qu'il le veut ou pas. Et ces trois types de fonctionnalités malveillantes se trouvent ensemble souvent. Par exemple, un paquet privateur qui contient tous les trois types du malveillant que tu connais peut-être de nom s'appelle Microsoft Windows. Donc Windows est malware, littéralement. Un programme développé pour faire mal à l'utilisateur. Mais aussi, il est encore pire parce qu'une porte dérobée dont la présence dans Windows a été établie est universelle. Ça veut dire que Microsoft a le pouvoir d'imposer à distance des changements de logiciel, n'importe quel changement de logiciel dans Windows, sans demander la permission du propriétaire théorique de l'ordinateur dans lequel tourne Windows. Ça veut dire que n'importe quelle fonctionnalité malveillante qui n'est pas présente actuellement dans Windows peut être imposée à distance demain. Windows est donc malware universel, mais il n'est pas unique. Les systèmes d'exploitation d'Apple sont malware. macOS est moins injuste, mais injuste parce qu'il contient des menottes numériques. Mais le système des iThing, les monstres nouveaux d'Apple, est beaucoup pire parce qu'ils ont découvert plusieurs fonctionnalités de surveillance dans ce système, mais surtout parce que les logiciels menottes sont les plus serrés de l'histoire de l'informatique. L'utilisateur ne peut plus choisir librement les programmes à installer. Il ne peut installer que les programmes approuvés par Apple. Ça veut dire que ces ordinateurs sont des plateformes pour la censure, ce qui doit être interdit. Mais aussi, il y a une porte dérobée reconnue par Apple. Donc, les systèmes d'exploitation d'Apple sont malware. Mais aussi, Flash Player est malware parce que Flash Player contient des menottes numériques et une fonctionnalité de surveillance. Mais Flash Player est gratuit, mais pas libre. Et cet exemple démontre que la gratuité d'un programme ne signifie pas grand-chose. La gratuité de Flash Player signifie qu'Adobe n'exige pas que l'utilisateur paye pour être abusé. Angry Birds est malware. Il espionne l'utilisateur et transmet des données de localisation. Le logiciel dans le Swindle d'Amazon, le lecteur de livres électroniques, de livres numériques, contient du malware. Swindle signifie l'escroquerie. Et ce produit fait l'escroquerie des libertés traditionnelles du lecteur. Par exemple, la liberté d'acquérir un livre à l'anonymat, payant en liquide, impossible avec les livres numériques du Swindle. Amazon exige que l'utilisateur s'identifie. Donc Amazon gère une grande base de données avec tous les livres que chaque utilisateur a lus. Mais encore plus, parce que le Swindle transmet à Amazon quelle page de quel livre l'utilisateur est en train de lire à chaque moment. Et si l'utilisateur écrit des notes sur le livre, Amazon peut les lire aussi. Donc, un produit pour la surveillance. Mais aussi, le swindle élimine la liberté de donner le livre en cadeau à quelqu'un d'autre après de le lire, ou de le prêter à plusieurs, ou de le vendre à une boutique de livres d'occasion. Impossible à cause des menottes numériques, mais aussi interdit par le contrat qu'Amazon impose sur les livres numériques, un contrat qui élimine les droits que même le droit d'auteur reconnaît au lecteur. Avec un livre imprimé, tu as le droit de faire ces choses. Tu as le droit de le donner en cadeau, ou de le vendre, ou de le prêter aux amis. Mais pas avec le swindle. C'est-à-dire qu'Amazon ne respecte pas la propriété privée des lecteurs. C'est un système plus ou moins soviétique. Et enfin, il y a une porte dérobée pour supprimer les livres. Nous le savons par l'observation. En 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre. Des exemplaires qui avaient été, jusqu'à ce jour-là, autorisés. Copies que les utilisateurs avaient obtenues légalement chez Amazon par le chemin approuvé. Mais un jour, Amazon a supprimé toutes ces copies, un acte orwellien. Et c'était quoi le livre ? 1984, de George Orwell. Je n'oserais pas l'inventer. Suite à beaucoup de critiques, Amazon a prometté de ne jamais le faire plus, sauf sous ordre de l'État. Mais si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas très réconfortante. Mais de toute manière, Amazon ne tient pas la promesse. Le nom officiel de ce produit est Kindle. Kindle signifie incendié. Peut-être pour nous suggérer que le vrai but de ce produit est d'incendier les livres à distance. Mais pas les miens, parce que je n'utiliserai jamais tel produit. Et il faut rejeter tel produit, n'importe quel tel produit. N'importe quel produit qui ne respecte pas les libertés traditionnelles des copies pas numériques, il faut rejeter sans exception. Et le dernier exemple est celle de la grande majorité des téléphones portables parce qu'ils contiennent dans le logiciel une fonctionnalité de surveillance qui transmet la localisation GPS sur commande et une porte dérobée universelle par laquelle quelques-uns ont le pouvoir d'imposer à distance des changements de logiciel. Et cette porte dérobée universelle a été utilisée pour convertir des téléphones portables en dispositifs d'écoute, qui écoutent tout le temps et transmettent tout le temps. Et pas besoin de parler dans le micro parce qu'il sait écouter depuis l'autre bout de la chambre. Et si tu veux, pour ta vie privée, l'éteindre, tu peux essayer de l'éteindre, mais il ne s'éteint pas. Il fait semblant de s'éteindre pendant qu'il continue de t'écouter et de transmettre. Pour ne pas être écouté, il faut ôter toutes les batteries, même les batteries secondaires cachées, s'il est possible. Mais ils fabriquent des téléphones dont les batteries ne sortent pas. Impossible de te protéger d'être espionné par ces téléphones. Il faut ne pas les utiliser. Mais de toute manière, je viens de démontrer que presque tous les utilisateurs de logiciels privateurs utilisent des programmes qui sont du malware connu. Mais chez le logiciel libre, les fonctionnalités malveillantes sont très rares. Elles existent de temps en temps, mais elles sont rares parce que les utilisateurs ne les veulent pas. Donc, et les utilisateurs ont le contrôle du programme. Donc, si quelqu'un introduit quelque chose de malvoyant ou d'erreur, ce qui a lieu beaucoup plus souvent, une erreur, les autres peuvent le corriger. Chez le logiciel privateur, le propriétaire reconnaît son pouvoir sur les utilisateurs. Les contributeurs à un programme libre n'ont pas de pouvoir. Ils ne sont pas parfaits. Ils peuvent faire des erreurs et de temps en temps, quelqu'un peut essayer d'abuser les autres, mais ils n'ont pas de pouvoir pour le faire. Et sans pouvoir, ils ressentent moins de tentation. C'est le pouvoir qui provoque la tentation. Et le propriétaire d'un programme privateur ressent beaucoup de cette tentation d'abuser les utilisateurs. C'est la pratique courante. Mais chez le logiciel libre, nous avons une défense, pas parfaite, mais c'est une défense assez efficace, beaucoup mieux que d'être sans défense.
Sans défense face aux Amazones, le coup de 1984 de George Orwell était quand même particulièrement savoureux. Suite et fin de cette conférence de Richard Stallman enregistrée le 21 septembre à Paris 8 à l'initiative de l'April dans le cadre des 30 ans du projet GNU, la semaine prochaine, où on fera la part entre libre et open source, où on aura la petite histoire de GNU et Linux, où on parlera aussi école et éducation, éducation selon Richard Stallman, qui l'on souhaite un bon 30 ans du projet GNU. Quant à GNU, on va se retrouver la semaine prochaine en vous souhaitant de rester libre toute la semaine. agendadulibre.org pour les rendez-vous nationaux, monpel-libre.org pour les rendez-vous locaux. D'ici là, restez libre. Terrorist networks. Terrorist
states. Vous ne savez pas pourquoi vous aimez les loutres, mais vous savez pourquoi vous aimez les logiciels libres.